11h43 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Sous la neige encore à Québec, quand même quelques centimètres qui devaient tomber aujourd'hui. C'est moins 1 degré au thermomètre, moins 7 ressenti. Soyez prudents sur les routes. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021. Un plaisir de l'accueillir. Toujours des discussions plaisantes qui viennent toucher pas mal tout le monde. Là, le système d'éducation, je pense que c'est un sujet dont on aime parler. Souvent, malheureusement, pour des moins bonnes raisons, mais des fois aussi simplement pour se questionner. Puis c'est le cas aujourd'hui. Vous avez entendu dans les dernières secondes la nouvelle que je vous rapportais. André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Monsieur Bernier, bonjour.
Bonjour, M. Larouche.
Avant de se lancer dans le sujet dont je parlais, j'ai comme pas le choix, là. Votre première réaction hier à l'annonce surprise de la démission du premier ministre François Legault, ça a été laquelle?
Ça a été une surprise parce que de ce qu'on entendait, là, il était là pour rester jusqu'à la fin. Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous avec le peu de temps qui reste d'ici aux élections là, du mois d'octobre? J'en suis pas certain. Et les gens du ministère sont quand même là, ils continuent leur gros travail là, d'ici là. Fait que, nous, c'est nos intervenants prioritaires, c'est avec le ministère qu'on continue à travailler d'ici là.
On disait ce matin avec Marceau, avec Jeff, que c'est rare qu'un premier ministre quitte. Puis là, bon, on parle du bilan. Puis là, dans le cas de M. Legault, on dit, OK, pour l'identité, on peut trouver qu'il a fait des bons coups, puis sur certains points. Mais c'est très rare qu'un premier ministre quitte puis qu'on se dit, hey, ce premier ministre-là là, a eu un bon bilan en éducation. On dirait que ça arrive jamais. Comment on l'explique, ça?
Bien, un, pour celui-là, pour M. Legault, un bon bilan en éducation, c'est il y a eu tellement de décisions qui ont été imposées sans consulter le milieu que c'est dur d'avoir un bilan qui est positif là, suite à tout ça. On n'a pas eu de discussion sur les gros enjeux. On a vécu des décisions pendant la pandémie où on apprenait en même temps que monsieur, madame, tout le monde à la télévision qu'est-ce qui se passait, puis il fallait se retourner de bord avec les enseignants pour dire « Oh, OK, on a ça à mettre en place », que c'est dur d'être positif là, face à ça.
C'est-tu symptomatique de ce qui se passe habituellement, en général, peu importe qui est à la tête du Québec, ce qui se passe sur le plancher des vaches, on le voit pas nécessairement, puis on consulte pas assez?
Non, je vous dirais que il y a réellement eu un changement plus à partir, effectivement, de la pandémie. Okay. Où ça a été beaucoup plus directif, beaucoup plus imposé qu'auparavant. On sent une centralisation là, du pouvoir vers le ministère. Là, on a vu les changements au niveau de la loi qui donne un pouvoir au ministre de l'Éducation. On voit les codes d'éthique qui sont apparus, que les gens là, semblent être muselés. Je vous donne l'exemple de ce que j'ai fait l'an passé, en fin d'année, là, d'écrire à des parents puis d'aller dans les médias. Avec le code d'éthique, les gens n'ont plus le droit de faire ça. Là. Mm. Fait que, tu sais, je demeure le porte-parole pour être capable de prendre la parole pour toutes les directions d'école à cause de ça aussi.
Donc, un rapport de l'Institut du Québec nous montre que les dépenses du gouvernement du Québec en éducation ont augmenté de 57% sous la CAQ, mais que les résultats concrets sur la réussite sont mitigés. Là, je nommais notamment le taux de diplomation au secondaire qui stagne. Votre analyse là, de cette nouvelle-là, grossièrement, c'est quoi?
Bien, on avait un système éducatif qui était sous-financé pendant des années. Donc, il y a eu un rattrapage. Un des gros rattrapages qui a été fait, et ça coûte très cher, c'est au niveau des infrastructures. Tout ce qui est l'entretien des bâtisses, toutes ces choses-là, et il y a encore du chemin à faire, bien, ça coûte des millions et des millions. Et ça compte dans le calcul du 43 % par élève. Et ça, ça donne pas du service à l'élève et ça donne pas de la réussite. On comprend que ça donne une importance. Le bien-être de l'élève à l'école est très important. Les enseignants, on veut pas qu'ils soient dans des affaires qui sont vétustes, même si des fois c'est le cas. Mais ça compte dans les chiffres. Là, fait que c'est certain qu'il faut faire attention. Oui, il y a eu une augmentation d'environ 10 % du nombre d'élèves. Il y a plus de personnel, donc ça a fait augmenter aussi la masse salariale. Puis à ça aussi s'ajoutent les augmentations de salaire. Fait que, on a plusieurs facteurs qui font que ça a augmenté d'un 58 %. On avait du recul, on a rattrapé un peu du recul, mais en même temps, on a d'autres considérations qui font que ça augmente autant que ça sans qu'on ait un impact sur la réussite des élèves.
Un des aspects qui est abordé dans ce rapport-là de l'Institut du Québec, c'est, oui, plus de personnel, mais on se pose peut-être des questions sur la qualification du personnel. On a beaucoup parlé dans les dernières années des fameux profs non légalement qualifiés, là, un terme qu'à la base, on savait même pas trop ce que ça voulait dire, au point où c'était quasiment légitime pour des parents de se demander, voyons, on met-tu n'importe qui devant la classe de mon enfant, juste pour quelqu'un, un adulte, mais qu'on sait pas c'est qui, on sait pas qu'est-ce qu'il y a comme qualification. Ce concept-là là, de profs non légalement qualifiés, est-ce qu'il est encore j'ai envie de demander, est-ce qu'il est encore flou? Est-ce qu'il est problématique, ce concept-là?
Bien, le concept de non légalement qualifié, dans le milieu, en tout cas, il est clair. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études en enseignement. Puis là, on parle d'enseignement, mais on a des non légalement qualifiés dans les postes de soutien comme technicien d'éducation spécialisée, service de garde. Et ces personnes-là n'ont pas non plus de formation en lien avec la tâche qu'ils ont à accomplir. Donc, ils ont une formation connexe qui leur permet d'entrer. Mais on se rappelle que M. Drainville nous avait dit, bien, tant qu'il y a un adulte en avant de la classe, c'est correct.
Cette déclaration-là avait contribué, disons, à ce que M. et Mme Tout-le-Monde se disent, OK, bien, c'est-tu vraiment ça? Là? On met-tu juste un adulte devant la classe sans vraiment de qualification quelconque? Puis
moi, cette déclaration-là me fait sauter au plafond. Là, c'est pas vrai qu'on a fait un bac puis que ça vaut rien. Là, les gens qui sont en éducation ont fait un bac, ont fait des techniques pour justement aller chercher une spécialisation, leur permettre de travailler avec les enfants et leur donner des connaissances particulières qu'on n'a pas dans le bac en comptabilité. Puis c'est important de reconnaître ça. En même temps, on a besoin d'adultes, effectivement, en avant des classes, pour au service de garde aussi. Puis sans les gens qui n'ont pas un bac, admettons, en sciences, puis qui viennent enseigner les sciences, des choses comme ça, on serait encore plus dans le trouble. Mais, on s'en est déjà parlé, ça prend du soutien à ces personnes-là. On ne peut pas les laisser aller puis dire, ben garde, c'est correct, tu vas t'organiser tout seul. Ça prend du temps, il faut les accompagner, il faut avoir des ressources. On le fait dans les dernières années. Avec les coupures de cette année, c'est plus difficile de le faire parce qu'on a moins de sous, on est plus limité. Donc, ça a un impact, ça aussi. Là. J'ai entendu dans des écoles, là, des profs d'anglais qui n'étaient pas capables d'être remplacés. Donc, ça faisait 3, 4, 5 personnes qui se suivaient une en arrière de l'autre. Mmh. Et il faut se rappeler que l'anglais, 5e secondaire, c'est nécessaire pour la diplomation. Bien, quand tu n'as pas un vrai prof d'anglais qui est là ou que tu as quelqu'un qui ne connaît même pas l'anglais, mais que ça prend quelqu'un devant de la classe, on ne laissera pas les enfants seuls, ça a des impacts à long terme, là, ça aussi.
André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, on voit cette nouvelle-là ce matin, puis tu sais, les titres, puis les titres ne sont pas faux, là, ils sont véridiques, mais on parle, exemple, de beaucoup d'investissements en éducation, mais des résultats qui peuvent être... J'imagine que beaucoup vont voir ça puis se dire, voyons, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Où on met l'argent? Puis là, en début d'entretien, vous abordiez le fait que on compte là-dedans tout ce qui est rénovation, tout ce qui, c'est beaucoup d'argent. Ça, oui. C'est clair. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on doit revoir les endroits où on investit cet argent-là? Puis en sous-question par rapport à ça... Parce que honnêtement, même moi, je sais pas à quel point je connais la réponse. Je sais qu'il y a des histoires d'enveloppes et tout ça, puis là, c'est peut-être qu'il y a bien des technicalités dans lesquelles on pourra pas entrer, mais à quel point le ministère de l'Éducation, le gouvernement du Québec, décide où les écoles investissent par rapport à quel point les directions peuvent avoir cette liberté-là de décider où on investit l'argent qui nous est remis, dans quel secteur, tout ça?
Bien, on dirait que vous lisez dans mes pensées, là, parce que une des choses qu'on demande, nous, comme direction, c'est d'avoir plus de flexibilité dans l'utilisation des montants qui descendent dans les écoles. Parce que, comme vous le dites, là, il y a des enveloppes qui sont tellement fermées qu'on l'a puis on ne peut rien faire d'autre. Je donne l'exemple. L'aide alimentaire qu'on entend parler là, depuis là, quelques années, là, ça ne peut servir qu'à ça. Et les sommes sont... excusez le terme, mais faramineuse là, dans les écoles. Donc, une école qui est dans un milieu où tout se passe bien a quand même un très gros montant et doit l'utiliser pour ça, ne peut pas l'envoyer pour dire, « Bien, crime, moi, l'alimentation, ça se passe très bien, je suis dans un beau secteur, j'ai pas de parents en difficulté, je l'utiliserai pour mettre plus d'orthopédagogie. » Non, c'est pas possible. Fait ça doit servir à ça.
Et à ce moment-là, puis j'imagine que c'est ce qu'on déplore, cette somme-là, que vous qualifiez de faramineuse, on la retourne au gouvernement?
Si elle n'est pas utilisée à la fin de l'année, oui.
Alors que dans d'autres secteurs, dans d'autres enveloppes, on aurait besoin de plus d'argent, on arrive au bout, on ne peut pas dépenser plus, mais on regarde à côté, on a cette mine d'or-là qui existe, qui est théoriquement dans notre budget, mais qu'on n'a pas le droit de toucher.
C'est en plein ça. Vous avez résumé très bien. On a des sommes, des mesures protégées qui vont dans un budget très précis puis qu'on ne peut pas déplacer. Il y en a d'autres qu'on a un peu plus de flexibilité. Mais nous, ce qu'on demande, c'est ça. Que les enveloppes budgétaires soient, excusez le terme, mais éclatées pour que nous, on ait une flexibilité comme direction de dire, dans mon école, là, les besoins, c'est en orthopédagogie. C'est pas au niveau du TES puis c'est pas au niveau de l'aide alimentaire. C'est ça. Que
pourquoi,
j'ai besoin.
Pourquoi on le refuse? C'est quoi les raisons du gouvernement de dire non à ça? C'est pour vraiment décider où on met l'argent? Puis...
Bien, à l'automne, on a eu un soubresaut de dire on veut vous donner plus de flexibilité.
Je m'en souviens, oui.
On est ouvert à ça. Mais je vous dirais que depuis ce temps-là, on n'a pas rien entendu parler. Okay. Puis ça, c'était au moment où ils venaient de faire volte-face en disant « ben c'est plus une cible, c'est plus un plafond, c'est une cible.
Ouais. »
Fait que ça fait quand même un bon bout de temps là, de ça.
Ouais.
Puis depuis ce temps-là, ça n'a pas bougé. Il y a des considérations peut-être de leur côté à prendre en compte du côté là, du ministère. Mais on la veut et c'est important. Puis... une des choses aussi qu'il y a, c'est qu'on a tellement de redditions de comptes qu'on leur a dit, bien, on ne sait même pas pourquoi on fait des redditions de comptes. Ce n'est pas inscrit. On fait une reddition de compte pour faire une reddition de compte. J'en avais déjà même parlé au ministre Drainville quand je l'avais rencontré, puis il n'était même pas au courant qu'on devait faire une reddition de compte sur certaines choses.
André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Merci beaucoup et à bientôt.
Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
Dans les prochaines minutes, Jeff Fortin s'en vient avec Antonine Iacarini pour On en jase et le caucus Iacarini. Dès 14h, c'est Gravel dans le retour. Et dès 18h ce soir, manquez pas Marceau le soir avec le candidat à la chefferie libérale, Charles Milliard. Merci beaucoup d'avoir été là dans le Point de Max. On se retrouve demain matin, 6h avec Marceau et 10h dans le Point de Max. Salut!